Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, nous avons beaucoup de chance parce que d'un coup d'un seul, nous avons deux auteurs qui viennent nous parler de leur livre qui est sorti à la rentrée et qui, on a beaucoup de chance parce que c'est vraiment les deux des livres les plus réjouissants de la rentrée littéraire pour des tas de raisons dont on va parler ce soir. Et d'abord, une première chose, ce sont des livres qui racontent des histoires, autant l'un que l'autre. Alors, on va commencer par le livre, disons, à ma droite, de Agnès de Sarthe, qui s'appelle « Ce cœur changeant », aux éditions de l'Olivier. Et en suivant, nous allons parler du livre de Émilie de Turckheim, « Popcorn Mélodie », aux éditions Héloïse d'Ormesson, donc, que vous connaissez autant l'une que l'autre. Alors, nous allons commencer par Agnès. Je vais vous raconter assez rapidement l'histoire de son livre. Alors c'est l'histoire de Rose. Rose est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est née d'un père, d'une mère danoise un peu fantasque, on dira, et d'un père officier français, un peu falot, on dira. C'est une union un peu malheureuse et au cours du temps, cette jeune femme va être amenée à faire sa vie toute seule. Elle va se retrouver à Paris à 20 ans, toute seule. Et voilà, c'est le début de la vie des hauts et des bas de cette jeune Rose, de la vie de château au ruisseau et de l'opulence à la déchéance parfois. Voilà, donc on va en parler évidemment un peu plus longuement. Et puis le livre d'Émilie, donc Popcorn Mélodie. Là, elle nous transporte complètement ailleurs. Elle nous parle des États-Unis, puisqu'on se retrouve dans une petite bourgade des États-Unis, dans le Midwest, dans l'État du Kansas, on dira, dans une toute petite ville. Et là, on fait la connaissance de Tom. Alors Tom, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années. Il a une particularité, ce jeune homme, c'est qu'il est, il est descendant des Indiens des Plaines, d'une tribu qui s'appelle la tribu Kansa. Et ce jeune homme, il a une petite supérette dans cette bourgade qu'il essaie de faire vivre comme il peut. Alors, il a une singularité, ce jeune homme, c'est qu'il vend des choses, mais ce n'est pas très très important ce qu'il vend, parce que ce qui est très très important surtout pour lui, c'est quelque chose qui est devant sa caisse enregistreuse, qui est une chaise, qui est la chaise de barbier de son père, et dans laquelle des hommes et des femmes du village viennent raconter leurs histoires, que ce soit des souvenirs, des rêves, ou les choses du quotidien. Voilà. Et il se trouve que ce jeune homme vit comme il peut avec cette petite supérette, jusqu'au jour où, hélas, un énorme hypermarché vient s'installer juste en face de sa supérette. Et là, c'est le début d'un acte de résistance, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, voilà, c'est le début de quelque chose que Émilie va nous raconter un petit peu plus tard. Alors, ce que je voulais vous demander d'abord, avant tout, à vous deux, est-ce que vous avez eu l'idée, est-ce que vous avez eu envie d'écrire un roman d'évasion quand vous avez écrit ces deux livres, et pourquoi ? Voilà, tout simplement.
Alors, un roman d'évasion. Agnès, tu veux commencer ou j'y vais ?
Vas-y.
Bon. Alors, un roman d'évasion. L'idée de l'évasion, je ne sais pas, que ça se passe loin, dans un endroit qui ne m'est pas familier, c'est le cas. Je n'ai jamais mis les pieds de ma vie au Kansas. Maintenant, ça, c'est toujours une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est familier pour nous dans l'écriture ? Est-ce que parler de soi, par exemple, rend les choses plus familières que de loger son histoire au fin fond du Midwest ? Quand j'avais, je ne sais pas, entre 18 et 25 ans, je me suis beaucoup évadée en parlant d'évasion. J'ai beaucoup voyagé très loin. Je passais mon temps à ça. Je passais mon temps à donner des petits cours de latin et d'anglais. Et j'économisais, et dès que j'avais le temps, je partais. Alors, je suis partie en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Mongolie, en Chine, au Vietnam. J'arrêtais pas de partir. Et j'imagine que je me disais, peut-être dans ma petite tête à l'époque, je vais aller rencontrer des cultures qui ne sont pas les miennes. Et ça, c'est peut-être vrai quand on passe 10 ans, 20 ans quelque part, mais ce n'est pas vrai quand on est un touriste. En fait, quand on est un touriste, ça n'arrive pas, cette chose. Ce qui se passe, c'est que, on se retrouve dans un endroit, on n'est pas dépaysé, on se retrouve loin de son pays. Ce n'est pas vraiment pareil. Et ben pour moi, écrire sur un lieu loin, écrire sur le Kansas, écrire sur les Indiens des Plaines, il se produit la même chose pour moi. C'est-à-dire, finalement, quand on est loin et que rien n'est familier autour de soi, la seule chose qui est familière, c'est soi. Donc on prend beaucoup plus conscience de ce qu'on est quand rien n'est, familier autour de soi. J'ai écrit une seule fois quelque chose qui était tout à fait proche, puisque c'était un journal de grossesse, un journal de ma grossesse en plus. Et j'ai réalisé à quel point c'était inhibant en fait, c'était pas du tout amusant pour moi en plus littérairement d'être à ce point borné par une expérience qui était la mienne et même par un environnement géographique, une histoire, des personnages qui étaient au-delà des personnages, des gens de mon entourage. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour le coup, les Indiens des Plaines, bon, ça n'a jamais été une passion dans ma vie. C'était quand même un souvenir d'enfance, parce que j'ai habité un peu aux États-Unis quand j'étais petite, et c'était quand même c'était le genre de choses dont on nous parlait quand on faisait des cours d'histoire accélérée de l'arrivée des colons européens et de leur rapport avec les Indiens. Mais voilà, c'était pas plus fort que ça. Par contre, ce que j'adore, c'est être dans cet endroit. J'ai créé un désert qui n'existe pas, là, dans le Kansas, un désert de pierre noire où se trouve cette petite ville dont parlait Sylvie. Et ça, cette idée d'écrire avec absolument aucun divertissement autour, le désert. Moi, j'ai toujours couru après les déserts, je ne sais pas pourquoi. Le désert dans l'Utah, le désert de Gobi, le désert de l'Atacama au Chili, je dois avoir un truc avec les déserts qui n'est pas esthétique. Ce n'est pas le fait d'être devant un lieu qui me bouleverse comme un beau paysage, c'est presque le contraire. C'est le fait qu'il n'y ait rien, c'est ça qui me touche. C'est le sentiment de pure solitude que ça procure. Et j'aime bien retrouver ça dans l'écriture. Ça veut dire me dire je suis tellement loin de ce qui me parle habituellement que même ma langue ne va pas m'être familière. Voilà, c'est l'idée. Pour moi, l'évasion, c'est toujours une question de langue. C'est même quand on écrit dans sa langue, écrire dans une langue étrangère. C'est-à-dire que rien n'est, qu'aucun mot n'est normal, qu'aucune expression ne va de soi. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est exactement ce qui m'a plus que touchée, que j'ai vraiment adoré dans le livre d'Agnès, c'est que j'ai ressenti c'est tout ce que j'aime dans la littérature, à savoir rien n'est pris pour acquis dans une phrase. À l'échelle même de la phrase, on pense que quelque chose va advenir et ça passe par ailleurs, ça passe par la porte, ça passe par la fenêtre, ça passe par la cheminée. C'est repousser ce qu'on attend du langage. Pour moi, c'est vraiment ça le vrai boulot. Alors là, on est loin de l'histoire, mais c'est pour répondre à cette question de l'évasion. Pour moi, c'est toujours une métaphore de situer les choses loin. Loin, bon là, c'est loin géographiquement, mais les Indiens, c'est loin dans le temps et puis c'est loin de moi de toute façon. Je trouve que c'est un grand espace de liberté et plus c'est loin, plus c'est proche, plus je trouve ça intime, en fait. J'ai parlé beaucoup trop.
Non, pas du tout.
Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai en plus, hein, je suis vraiment d'accord. C'est pas juste une figure de style ou un trait d'humour. Peut-être que ce que je devrais préciser par rapport à ce cœur changeant, c'est que l'histoire se déroule non pas loin dans l'espace, mais loin dans le temps, cette fois-ci, puisque la jeune Rose, dont vous a parlé Sylvie, elle arrive à Paris dans les années 10. Donc, le livre commence vraiment à la fin du 19e et se termine dans les années 30. Donc, de la même manière que Kansas n'est pas un endroit qu'Émilie a sillonné, cette période de l'histoire n'est pas une période que j'ai connue et que je connais que par ce qui est déjà pas mal, par les livres, surtout par les romans, même si je me suis documentée par ailleurs pour écrire le livre. Mais en tout cas, par rapport à l'évasion, je pense que il n'y avait pas de décision initiale de ma part. Il n'y a jamais de décision initiale de ma part quand j'écris un livre, de toute façon. Enfin, c'est pas, je ne me dis jamais, cette fois, je vais faire... de manière, dominatrice. Je ne me dis jamais, cette fois, je vais faire ci, cette fois, je vais faire ça. Il y a plusieurs choses qui me poussent, mais c'est surtout la curiosité la curiosité de voir ce qui va se passer dans l'histoire. Et pour ce qui est de l'évasion, moi je pense que le mot que je retiens, pas le seul bien sûr, mais un des mots que je retiens dans ce que vient de dire Émilie, c'est le mot de liberté. Et moi je suis toujours assez frappée que dans un espace justement qui est l'espace le plus libre, peut-être le seul espace libre qui existe réellement, c'est-à-dire l'espace de l'art, de la création, on s'enferme tellement. Et je me dis que c'est tellement tentant, enfin, les occasions sont tellement maigres dans le réel d'être ailleurs, d'être à une autre époque, d'être quelqu'un d'autre, d'être plusieurs personnes à la fois, de tuer, de mourir, enfin toutes ces choses qu'on ne fait pas. Enfin, mourir si, mais le plus tard possible. Donc, on peut en faire l'expérience en écrivant, et on peut faire toutes les expériences en écrivant. Il n'y a pas de morale dans l'écriture. On peut faire arriver tout ce qu'on veut. Personne ne va vous dire « il ne fallait pas, c'est très mal ». Ben c'est tentant quand même. Donc c'est plus cette tentation-là de faire arriver des événements et de les laisser proliférer que de me dire « je vais m'évader ». Peut-être que c'est une forme d'évasion en même temps. Peut-être que il y a toujours la phrase de Singer, Isaac Bashevis Singer, qui tourne dans ma tête quand j'écris, qui est dans la littérature comme dans les rêves, la mort n'existe pas, qui est une phrase très vraie et qui a une pleine d'enseignements parce que l'idée c'est que en disant ça, il définit l'espace de la littérature comme l'espace où la seule réelle borne qui nous est imposée, qui est celle de la mort, même celle-là n'existe pas. Donc c'est dire à quel point c'est vaste. On peut aller absolument partout. Donc si on peut aller absolument partout, c'est vraiment comme si on était dans une gare qui peut vous emmener vraiment où vous vouliez et que vous vous obstiniez à aller à 3 km de chez vous. Bon, pourquoi pas ? Il y a aussi des choses à y voir. Mais moi, je trouve ça tentant. D'aller le plus loin possible. Alors, ça peut être loin dans l'espace ou ça peut être loin dans le temps, mais aussi loin dans la langue. Et là, je rejoins tout à fait Émilie, que l'expérience de l'écriture, si c'est juste une expérience... et c'est déjà pas mal, après tout. Raconter une histoire, c'est déjà pas mal et c'est déjà pas si facile. C'était Virginia Woolf qui conseillait toujours aux gens, aux critiques, elle leur disait toujours... Essayez un jour d'écrire une histoire. Asseyez-vous, prenez une feuille, un papier, et c'est bon pour les lecteurs aussi, si vous voulez être un bon lecteur, et essayez d'écrire une histoire, et puis relisez-vous après. Voyez le fatras que c'est. C'est un bon conseil. Et donc, il y a un travail dans l'écriture, et ce travail-là, il est exigeant, et lui, il est une aventure, et lui, il est une forme d'évasion aussi. Parce que moi, ce que j'utilise souvent pour expliquer ce que je fais quand j'écris et ce que j'attends que les écrivains fassent quand je les lis, c'est que c'est comme les jeux de construction, comme les Lego où on empile des petits modules. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, s'il y avait dans la boîte de Lego un mur qui était déjà construit, la première chose que je faisais, c'était déconstruire ce qu'avait fait je ne sais qui pour repartir de zéro. Et que je voulais pas des morceaux déjà existants. Et en fait, en littérature, il y a plein de livres dans lesquels on trouve des morceaux déjà existants. Par exemple, vous avez des tas de mots qui sont toujours copains avec d'autres mots. Alors, c'était une petite maison. Par exemple, il y a des adjectifs qui vont toujours petite ville, petite maison, petit, on le retrouve très souvent. Ou vous avez des phrases entières parfois que vous pouvez prendre dans un livre, la déplacer, le mettre dans un autre, comme si on avait travaillé par bloc. En fait, moi, je me dis que le travail de l'écrivain, c'est aussi ça, c'est de défaire tout ce qui a été fait et de faire des rencontres, de fabriquer des rencontres qui n'auraient pas eu lieu sinon. Alors, c'est pas pour, comment dire, c'est pas pour fanfaronner, c'est aussi parce que c'est là que naît l'étincelle, ou c'est là que l'histoire que vous racontez, eh ben, c'est l'histoire que vous racontez, c'est pas l'histoire que quelqu'un d'autre raconte. Et ça, ça a l'air tout simple, mais c'est un travail. Enfin, c'est le travail d'écrivain, quoi.
Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi dans vos deux livres, c'est que dans les deux, Il est beaucoup question de poésie. Alors, dans le livre d'Émilie, le jeune Tom a un passe-temps favori. Il écrit des haïkus. Il écrit des haïkus dans un annuaire téléphonique qu'il écrit régulièrement, comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un entre dans sa boutique, il met quelques mots pour exprimer justement l'impression qu'il a de cette personne qui rentre. Voilà. Donc c'est quelques mots, c'est de la poésie, et ça vient sûrement de l'enseignement d'un de ses professeurs de linguistique qu'il a eu à l'université, parce qu'il est allé à l'université, contrairement à beaucoup des habitants de ce village. Voilà, donc il est question beaucoup de... Et puis il est aussi question d'Emily Dickinson, qui est aussi un personnage du roman, mais qui est aussi évidemment un rapport évidemment à la poétesse Emily Dickinson. Donc en effet, il est beaucoup question de poésie dans ce livre. Et dans le livre de Agnès, déjà il y a le titre qui s'appelle « Ce cœur changeant » qui vient d'un vers de Apollinaire. Et je pense en effet que ce livre, quand même, il est un peu placé sous cette égide-là, quand même, d'Apollinaire, entre autres, pas uniquement, mais entre autres. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est important aussi pour vous deux, d'avoir voulu exprimer ça, cette espèce de goût pour la poésie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Et est-ce que je peux poser une question à Émilie?
Oui, bien sûr.
Parce que le personnage s'appelle Tom Elliott. Oui. Est-ce que c'est Thomas Elliott?
Oui.
D'accord, parce que c'est un grand poète anglais. Aussi. Et moi, à chaque fois que je lisais Tom Elliott, je voyais...
Aussi, c'est vrai.
Mais Thomas... tu sais que personne ne me l'a dit. Oh, j'ai dû me...
Martine, chérie, mais... vont te le dire. Les gens vont te le dire. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue tout de suite. C'était de voir un poète vivant dans un livre. Parce qu'en plus, c'est un poète très, très familier pour moi, que j'ai beaucoup lu... que j'ai traduit, qui m'a énormément marqué. Et donc, je me disais, c'est pas possible que ce soit un hasard. Mais parfois, c'est des hasards. Mais en même temps, comme il est beaucoup question de poésie dans le livre, en même temps, je me dis, ce serait quand même un drôle de hasard. Et après, ce qui me frappait aussi, c'était qu'il y avait cette présence donc, de Thomas Elliott, ce merveilleux poète anglais. Et puis, il y avait, outre les haïkus, il y avait ce langage, mais vous alliez peut-être en parler,
oui,
Sylvie.
Oui, oui, on va parler de la langue.
Donc, je vous laisserai en parler. Je vous laisserai en parler, alors. Mais bon, donc, voilà pour Tom Elliott. Alors, là, c'est un personnage. Moi, c'est vrai que dans « Ce cœur changeant », j'emprunte un morceau du titre à un vers d'Apollinaire. Et Apollinaire apparaît, enfin, on parle d'Apollinaire. Et puis, un autre personnage qui est un poète, un aspirant poète. Et là, c'est... comment dire, franchement, c'est midi net de ma part. Je crois pouvoir le dire. En fait, je parle des poètes parce que j'aime les poètes et que je voudrais qu'on lise des poètes. Et donc, je pousse. Et je dis, regardez, encore un poète. Et il y a aussi lui. Et regardez, un petit vers. Vous avez aimé dire ça, hein? Et ben, y en a plus, si vous voulez.
Mais moi, j'ai les mêmes méthodes de marketing. Parce que donc, un des personnages s'appelle Emily Dickinson. Ouais. Et on pourra retourner le problème dans tous les sens. Elle n'a pas grand-chose à voir avec Emily Dickinson, la grande poète américaine, que j'adore. Et donc, je fais un petit peu de pub. Je me dis peut-être qu'en parsemant de petits vers, je vais faire lire à quelques lecteurs Emily Dickinson, qui est très peu lue, je trouve, en France, qui est une très grande poète, que je vous invite à lire. Voilà. Et puis moi, pour la question de la poésie, en fait, la question n'est jamais de savoir est-ce que je parle de poésie, pas de poésie, est-ce qu'il y a des poètes. C'est que pour moi, c'est absolument synonyme. C'est-à-dire que la littérature est poétique, et si on n'est pas du côté de la poésie, on n'est pas du côté de la langue, donc on n'est pas du côté de la littérature. Et une histoire, on peut la peindre, on peut la danser, on peut la filmer au cinéma, mais si on décide de l'écrire, et visiblement c'est ce qu'on fait, pour moi, il est toujours question de poésie. C'est évidemment une poésie, c'est pas en vers et rimé, une poésie, je parle du fait qu'on se sert de la langue pour exprimer des choses qui ne peuvent passer que par la langue et qui ne se limitent pas à ce que signifient les mots et à leur agencement. Et ça, c'est un peu le miracle de la cuisine d'écrire. Et voilà, donc pour moi, cette question de la poésie, elle est hyper importante pour moi parce que j'adore la poésie et que j'en lis énormément, mais que pour moi, c'est pas une sous-section de la littérature, la poésie. La littérature est poétique, c'est vraiment tautologique.
Alors, en effet, ce livre est éminemment poétique, justement à cause de son langage, qui est un langage extrêmement inventif dans sa forme, dans son parler. Alors, évidemment, il est beaucoup question du langage oral, avec des mots qui sont propres à cette région, j'imagine. Alors, inventé ou pas, évidemment.
Mais bon.
voilà. Donc, en effet, le langage est très important, et pour Agnès aussi, il y a quelque chose de très important aussi dans ce livre, c'est la revisitation des genres, qui est aussi quelque chose de très, très, très important aussi dans votre livre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, justement, de votre goût pour le langage ?
Alors. Ah bah, c'était beaucoup trop vaste, en fait, comme question, ouais. Parce que... mon goût. Alors, je vais parler de choses précises. Quand j'ouvre un livre et que je commence à lire, je me dis que, si tout va bien, dans chaque phrase, c'est pas plat, il y a une espèce de géographie, et à un moment donné, on va passer un col. Et plus le livre est bon, plus j'ai l'impression que dans chaque phrase, il y a un col. Et quand on arrive, il y a une espèce de sentiment de « Ah, c'est à ça que sert cette phrase, sinon on aurait pu ne pas la mettre. » Et du coup, il fallait pas l'écrire. Il aurait fallu faire autre chose. Et bah, ça, c'est une impression que j'ai eu, alors bon, je fais de la pub du coup, juste une petite chose. Quelquefois, il y a deux cols dans une phrase. Il y a un premier col, et puis il se passe une deuxième chose. Et moi, ça, c'est un plaisir de lectrice immense. C'est quand il y a quelque chose de versatile, en fait, dans l'écriture, qui, dans les livres d'Agnès, alors là, est omniprésent. C'est que j'ai toujours cette impression, donc il faut être sur le qui-vive quand on écrit, et je me dis que quand on est lecteur, on est aussi sur ses gardes. On est à l'échelle de la phrase, il se passe quelque chose, et hop, il se passe quelque chose d'autre. Et on pense qu'on est arrivé au sommet, et en fait, il y a un sommet caché derrière le sommet qui est un peu plus haut. Alors là, c'est très abstrait si je vous dis ça comme ça. Donc je vais vous dire. C'est un petit exemple, tout petit, mais... je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, quand vous visez. Donc Rose vit avec son amoureuse à Paris, et là, il s'agit de la gardienne de leur immeuble. Enfin, on disait une concierge avant, je pense. Voilà.
Je ne me souviens plus.
Oui, on disait, voilà. Bon. Alors, c'est juste un exemple. Je vous dis, c'est un truc de poésie, puisqu'on en parlait. Elle parle des jambes, donc, de cette gardienne. À force, ses varices finiront par éclater, songeait Rose, fascinée par les nœuds violacés, épais, tortueux, qui grimpaient comme du lierre. Alors moi, quand j'arrive à comme du lierre, j'ai mon sommet, en fait. Ça veut dire que, d'abord, c'était des varices qui appartenaient à la jambe, et d'un seul coup, en fait, c'est un truc végétal extérieur dégoûtant, avec des espèces de ventouses végétales qui se collent aux jambes. Et en fait, tadam, surprise, qui grimpaient comme du lierre, à l'assaut de ses jarrets. Et moi, l'idée de « à l'assaut de ses jarrets », en fait, j'ai mon deuxième sommet. C'est-à-dire que le lierre, d'un seul coup, il y a quelque chose de belliqueux, quoi. Ça attaque, ça saute aux mollets. En plus, c'est les jarrets, donc c'est comique, parce que des varices ne sautent pas à l'assaut des mollets, et qu'en même temps, c'est tellement ça, ça vient tellement de l'extérieur, cette espèce de truc de canot dégoûtant, boursouflé, violacé. Bon. Et moi, c'est tellement ça que j'aime dans la lecture. C'est toute une question d'image, en fait. C'est savoir qu'elle est toujours à l'échelle de la phrase. Moi, j'aime bien quand les choses sont courtes et que dans chaque phrase, je comprends un petit peu où va tout le reste du roman, et que c'est pas simplement des petites briques qui s'ajoutent, mais que chaque brique est comme dans une petite goutte d'eau, on voit tout un paysage en minuscule inversé. Moi, j'ai toujours été fascinée par ce qui se reflète dans les gouttes d'eau, et je sais pas pourquoi une phrase me fait toujours penser à ça. J'ai l'impression que c'est petit roman inversé en minuscule. Bon, et ben voilà, ça c'est sur la question du langage, parce que c'est très vaste de parler du langage. On a plein de rapports à ça. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est cette imprévisibilité. Penser que la langue est quelque chose de familier, on est parlé par sa langue, alors on n'y peut rien, on utilise des expressions. Tout à l'heure, tu disais les petites maisons, les machins. Et ben oui, moi, si j'écris dans un roman, il y a quelqu'un en colère, il n'est pas content, on lui a fait un sale coup, et il lève le bras, et ben jamais de la vie, j'écrirais qu'il lève son bras vengeur. C'est interdit, c'est impossible, c'est horrible, j'ai l'impression que c'est un renoncement à ce qu'est écrire, quoi, que c'est vraiment une capitulation. Et moi, il se trouve que j'ai une mère, enfin j'en ai qu'une, ma mère, ne parle qu'en expression. C'est incroyable, elle connaît toutes les expressions les plus vieillottes, et à la fois j'adore ces expressions parce que j'ai l'impression que c'est comme des vieux meubles qui nous sont communs à tous, et on comprend de quoi on parle. Et en même temps, je me dis que le travail d'écrire, c'est le contraire, c'est se dire j'ai une amie qui a écrit un livre il y a quelques années, il s'appelle Fermer l'œil de la nuit, et j'adore ce titre parce que je me dis que ne pas fermer l'œil de la nuit, on l'a entendu, on l'a dit plein de fois, et si on en prend un petit bout, on l'entend différemment, et on se dit ça voudrait dire quoi, fermer l'œil de la nuit. Et voilà, donc j'ai un rapport d'amour et de scepticisme vis-à-vis des expressions. Et c'est ça qui fait que je sais tellement goûter ce genre de phrase où j'ai l'impression que tout est pris au sérieux, que chaque mot est passé sur la sellette et on lui a dit « Est-ce que toi, mon coco, tu mérites d'être dans cette phrase ou pas ?» C'est pas du tout un hasard. Ça veut pas dire que les choses ne peuvent pas être intuitives ou venir de façon non calculée. Il y a toute une part très, très irrationnelle là-dedans. Mais je parle toujours de ce truc de qui-vive, quoi, d'être... vraiment ultra attentif et avoir presque peur de ce qui va arriver quand on écrit. J'ai bien répondu à cette question, je réponds ce livre.
Alors moi, c'est vrai que la question pour Agnès, c'était peut-être un petit peu plus, un peu différente en effet, c'était plutôt...
C'était sur les gens, mais d'abord je vais quand même...
Oui, on va quand même parler du langage.
Oui, je vais parler du langage parce que une des raisons pour lesquelles... En fait, on fait, comme vous le comprenez, un jeu croisé, c'est-à-dire que je parle du roman d'Émilie.
Ce qui n'était pas prémédité du tout.
Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour nous, en fait. C'est pas seulement plus facile, c'est aussi plus intéressant. Donc moi, quand j'ai ouvert ce livre... Alors, il faut dire que je suis traductrice, par ailleurs, de l'anglais. Et donc, je lis beaucoup de romans américains. Et je lis aussi beaucoup de romans qui se prennent pour des romans américains, qui sont des romans... français, écrits par des Français qui ont lu beaucoup de romans américains et qui écrivent des romans français avec une langue qu'ils ont inventée, enfin, qui a été inventée par des mauvais traducteurs. Donc il y a beaucoup de traducteurs de l'anglais, ça, il y en a énormément parce que tout le monde pense savoir parler anglais. Alors il y a un certain monceau de déchets qui sont des livres qui n'étaient pas si mal que ça en langue originale, mais qui, une fois traduits, sont devenus... Alors, on en lit tellement maintenant qu'on ne s'en rend plus compte. Hein. Vous êtes sûrement... Tout le monde est très, très habitué à entendre cette langue, mais qui n'est plus du français, qui n'est plus de l'anglais et pas tout à fait encore du français. Et par exemple, ça va être un peu grossier, je suis désolée, mais par exemple, vous allez trouver dans ces livres « Je n'arrivais pas à faire marcher mon putain de vélo aujourd'hui, car il y avait cette putain de pluie qui... » Alors moi, j'ai absolument rien contre les gros mots, j'adore ça, hein, c'est pas le problème. Mais qu'en français, on dit jamais ce putain de, à part quand on relit beaucoup de ces livres-là ou qu'on regarde beaucoup de films avec des traduits en... comment ça s'appelle, quand c'est pas en VO, là, en VF. En fait, ça marche autrement. On dit « j'arrive pas à faire marcher mon vélo, putain !» C'est comme ça qu'on dit en français. Ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est très important parce que c'est le génie d'une langue. En anglais, on fait comme ça. En français, on fait comme ça. Si on veut bien écrire sa langue, il faut bien la connaître. Donc, il y a des tas de romans américains qui ont été traduits, mais pas complètement traduits. Si vous voulez, le gâteau est à moitié démoulé. Il reste un bout en anglais et un autre bout en français. Donc, c'est cette espèce de magma hésitant. Mais comme c'est une littérature qui est très facile à lire et très agréable et très distrayante, elle a eu beaucoup de succès. Et maintenant, il y a des gens qui écrivent directement dans cette langue, qui n'est ni de l'anglais ni du français. Par exemple, Tonino Benacquita. Il écrit dans cette langue. Je pense que c'est intéressant, mais voilà, c'est une interlangue. Et donc, quand j'ai ouvert le livre d'Émilie de Turckheim, je vois tout de suite que ça se passe au Kansas. Alors, tout de suite, j'ai envie de rigoler, de faire « Ah, ouais, c'est ça, ouais. Elle va encore écrire un livre dans cette langue merde, que je peux plus voir, contre laquelle je me bats à longueur de journée. » Et en particulier, il y a une grande difficulté pour les traducteurs, et on fait des colloques entiers là-dessus, pour savoir comment traduire l'argot, en particulier l'argot en anglais, parce que il y a beaucoup de niveaux de langue en anglais. Il y a de l'argot gentil, il y a de l'argot poétique, il y a de l'argot très grossier, il y a de l'argot ordurier, et en français, on n'a pas toutes ces nuances. Donc c'est assez difficile d'arriver à faire des choses un petit peu précises, et on se casse beaucoup la tête avec ça. Et puis il y a toutes sortes d'argots locaux aussi, donc on se dit bon, bah alors on va traduire par du ch'ti, mais en fait ça va pas du tout, parce que le ch'ti c'est français, c'est le nord de la France, c'est pas... Donc on se casse beaucoup la tête avec ça, et Émilie a résolu notre problème. Elle a inventé un argot qui est plus vrai que tous les argots qu'on n'a jamais lus. Avec en particulier ce mot génial, crêle, espèce de crêle. On va adopter, enfin, il y en a plein. On va adopter tous ces mots. Ils sont absolument impeccables, en place. Et on y croit au point que vous dites, Mais il y a vraiment des moments où, et c'est ça la force de la littérature, c'est quand vous savez très bien que c'est faux, mais quelque chose. Si, si, c'est vrai, je t'assure, si, si, au Kansas, d'ailleurs, c'est un coin du Kansas où ils parlent français, et ils ont cet argot très particulier, c'est parce qu'ils vivent dans un désert noir, et dans ce désert noir, bah, alors il y a des creux, alors ils disent crêle, ça leur est venu comme ça. On est presque prêt à réinventer une étymologie pour justifier que c'est dans le livre, parce que ça existe tellement fort. Et donc moi, je me dis, bah, alors maintenant, à chaque fois que j'aurai de l'argot américain à traduire, franchement, je ne vais pas me fatiguer. Je vais le prendre directement dans Popcorn Melody. Donc ça a l'air de rien, mais c'est un exploit parce que pour rendre... En fait, qu'est-ce qui fait qu'on croit à une histoire ? Enfin, moi, ce que je crois à une histoire, c'est que c'est vrai que bien que très crédule dans la vie, je ne suis pas du tout crédule en tant que lectrice. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'une histoire soit bien racontée pour que j'y aille, quoi, pour que je finisse le livre, parce que j'en lis beaucoup, beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on y croit ? C'est une drôle de question, quand même. Et qu'est-ce qu'on dit quand on dit « je crois à cette histoire » ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous lisez le roman, vous n'êtes plus dans le roman, vous n'êtes plus chez vous, vous n'êtes plus vous, vous êtes avec ces personnages et vous êtes à l'intérieur de la matière romanesque. Mais, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Ce mouvement d'arrachement à soi, et là peut-être qu'on peut parler d'évasion, ce mouvement d'arrachement à soi, il est entièrement fabriqué par des mots. Il est entièrement artificiel, en fait. C'est pas que l'histoire est crédible. C'est que les mots sont exactement ce qu'il faut. Et donc, quand il y a cette création, qui est une véritable création poétique de l'argot, ça fabrique du réel, qui n'est pourtant pas réel, vu que ça n'existe pas, mais qui est plus réel que le réel. Donc ça, c'est une des vertus poétiques ultime. Pour répondre à la question du genre, je vais le faire en une seconde. Donc, ce roman historique, on va dire, bien que ce soit mon éditeur m'a interdit de l'appeler comme ça, hein. Il m'a dit, à chaque fois que je dis roman historique, il me tape. Il m'a dit. Donc, bon, il n'est pas là, alors je le dis. Pourquoi il ne faut pas le dire ? Parce que c'est très mal, c'est très ringard, les romans historiques, oh là là, ce n'est pas du tout moderne. Moi, de toute façon, j'adore faire des trucs qui ne sont pas à la mode, du genre un recueil de nouvelles l'année dernière. Pareil, j'ai dû me bagarrer avec lui, il trouvait que c'était une idée absolument stupide. Bon, donc ce roman historique, puisque ça se passe après tout à la fin du 19e et au début du 20e, est un roman d'apprentissage à l'envers, puisque c'était ça en fait que vous voulez dire par genre, c'est-à-dire que parce que je prends des figures qui sont de la même manière que Émilie tout à l'heure parlait de ses expressions chères à sa mère, et ça me fait penser au concierge du Grand Hôtel d'Proust quand même, c'est lui qui le génie de ça. Et donc comment on prend ces choses qui existent déjà et on les détourne, moi je le fais peut-être de... Voilà, c'est une échelle qui est celle du genre, où je prends des scènes clés ou des genres clés et je les détourne. Donc, par exemple, Rose débarque à Paris. Normalement, le personnage qui débarque à Paris au 19e, c'est déjà pas une fille, c'est un garçon. Et en général, il a un projet qui est de conquérir la ville, une femme, un poste, etc. Donc, je prends ça et je l'inverse. Donc, c'est pas un garçon... C'est une fille et elle n'a aucun projet et elle ne veut rien conquérir. Donc déjà, on a renversé quelque chose. Et puis sur le... Donc ça, c'est une certaine vignette du roman du 19e. Une autre vignette, c'est celle du roman d'apprentissage, c'est-à-dire un individu, candide, sans défense, vit des expériences qui, s'accumulant les unes aux autres, lui permettent de capitaliser là-dessus et de s'instruire lui-même et d'enfin ne plus faire toutes les conneries qu'il faisait au départ, en gros. Et de conquérir le monde, puisque le but est toujours de conquérir le monde. Or, Rose, c'est pas du tout ce qu'elle fait. Il lui arrive toutes sortes de choses, des bonnes, des mauvaises, des terribles. Elle manque de mourir. Elle souhaite mourir très souvent, parce qu'elle dit, alors si c'est comme ça, moi, je préfère mourir. Elle n'y arrive pas. Même mourir, elle n'y arrive pas. Et il n'y a pas d'apprentissage réellement. C'est-à-dire qu'elle ne se dit jamais, ah non, là, on ne m'y reprendra plus. On m'y reprendra toujours. Et quand j'essaye de m'expliquer ce que fait Rose quand elle vit, puisque, alors, à part déconstruire le roman d'apprentissage, ce qui est déjà une activité à plein temps, elle fait aussi une expérience qui est une expérience métaphysique, qui est l'expérience que faisait Duras en écrivant. Duras, elle disait, elle avait cette très jolie phrase, j'écris pour voir ce que j'écris quand j'écris. Et Rose vit pour voir ce qu'elle vit quand elle vit. Donc elle accepte tout, bon ou mauvais, et elle va au bout de cette chose. Donc c'est une expérience métaphysique, et ça, je pense que ça a été peut-être que l'expérience, elle est née, cette volonté de faire vivre ça un personnage, elle est née d'une maxime que j'ai entièrement retirée de son contexte pour la transformer à ma sauce, mais c'est pas grave, qui est un passage dans un commentaire de Rashi, un commentaire du Talmud, où il dit cette phrase est très brève, hein, c'est « accepte ce qui t'arrive avec simplicité ». Et c'est tout un programme. C'est tout un programme moral et c'est tout un programme intellectuel. Et donc, j'ai voulu appliquer cette maxime ou ce... oui, c'est ça, une maxime. Un personnage qui l'ignore complètement. Hein. Cette phrase n'est absolument pas présente dans le roman, mais je voulais voir ce qui se passait si on appliquait ce programme à la lettre. Donc voilà pour les genres. Je ne sais pas si j'ai oublié un genre, mais c'était surtout ça. C'est surtout roman d'apprentissage et roman...
Moi, je dirais aussi le roman philosophique, un peu, parce qu'il est beaucoup question de philosophie, du bonheur, de...
Là, enfin, ouais. Justement, ah oui, là, dans la figure de Candide...
Alors, cette figure de Candide, voilà, justement, qui, pour moi, est très, très importante, et que j'ai retrouvée un peu chez Tom, justement, chez Tom Eliot, qui a aussi cette espèce d'image de Candide qui va au-devant des choses, enfin en tout cas non, qui laisse les choses arriver.
Oui, alors là oui, c'est pas vraiment de la candeur, c'est que bon, il a cette petite supérette et débarque un hypermarché en face. Et moi là où je détourne le truc, c'est que c'est le contraire de, je retrouve plus le nom, au bonheur des dames. Dans au bonheur des dames, c'est le petit commerce de proximité qui va essayer de se battre contre les grandes galeries. Mais là, il se bat pas du tout en fait. Et ce que j'aime, c'est cette espèce de résignation. C'est un mauvais commerçant, il a à peu près rien dans ses rayons, et il a pas du tout cette espèce de, je sais pas, de fierté de commerçant, de se dire bah non, moi je vais arriver à garder ma clientèle avec autre chose que c'est bien très luxueux, désirable, probablement moins cher, mais au moins ici c'est chaleureux, c'est nanana. Il dépérit complètement, tous ses clients lui tournent le dos, donc le côté amical et chaleureux en fait face à l'appel des sirènes et tout, il y a plus personne. Il mange ses produits périmés qui restent dans son magasin pendant un an, il a absolument plus rien. Du coup, il peut même plus écrire ses petits poèmes parce que la source de ses haïkus s'est entièrement tarie puisque plus personne ne passe le pas de sa porte. Donc moi j'ai pas du tout voulu là pour le coup sa résistance elle est pas là. La résistance on va dire philosophique, c'est que ce personnage en fait il ne joue pas les règles du jeu, et parce qu'il joue pas les règles du jeu, comme un petit Bartleby de Melville qui dit à son patron je préfère pas, on lui demande de faire son travail, je ne préfère pas, et du coup l'autre n'a pas de prise sur vous, parce que d'habitude quand on s'oppose on le fait frontalement, on le fait avec une espèce de violence qui fait comprendre à l'interlocuteur qu'on n'est pas d'accord, qu'il y a un conflit, tu me demandes de faire ça, je te dis non, là tu mets un hypermarché, je me bats, et bah finalement quand on est dans cette espèce de politesse, de pas de côté, non juste je vais pas le faire, pardon, et bah on joue plus le jeu. Et moi j'aime bien ces personnages qui, parce qu'ils ne jouent pas le jeu, ne sont plus dépendants des règles du jeu. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai avec la poésie, justement, depuis toujours, c'est de me dire, c'est pas une lâcheté, c'est pas une façon passive, quoi, de baisser les bras, de se dire, je préfère contempler les choses, et finalement, c'est une forme d'action qui est tout à fait réelle. C'est une façon, je veux dire, écrire ou lire, je trouve que c'est une façon de fouiller le monde qui est concrète, quoi. C'est pas une position ni de juge, ni d'observateur, ni c'est une autre façon de faire. Et là, en l'occurrence, les gens me disent beaucoup « Oui, c'est un roman complètement anticapitaliste, pour le petit commerce de proximité, contre Chine. » Mais pas du tout. C'est cette idée qu'on peut s'ouvrir des immenses espaces de liberté quand on n'a pas les armes, justement, on va dire économiques, en l'occurrence, pour se battre. Et ça, c'est un truc que, on va dire, j'expérimente à l'échelle de ma vie. Moi, j'ai eu un vrai travail, on va dire, enfin même pas, enfin bon, 6 mois de ma vie peut-être, et même pas, j'étais en stage, quoi. Et je travaillais à l'Institut des Relations Internationales, au département des affaires militaires, sur un tank qui s'appelle un Striker américain, et qui communique avec d'autres tanks par intranet. C'est très perfectionné, ça coûte très très cher. Et j'étais toute la journée à faire mes photocopies de tanks et à bosser là-dessus, et j'avais un sentiment mais absurde en me disant, mais ça c'est concret, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, il semblerait que ce soit la vraie vie, que c'est un vrai métier. J'étais à Sciences Po, en fait, j'étais étudiant, je me dis, bon, c'est un rapport peut-être avec mes études, il doit y avoir une logique, enfin, ce sentiment de flottement terrible que j'ai en moi, il ne faut pas que je fasse attention parce que ça m'a l'air du solide, quoi. Apparemment, c'était une bonne affaire de décrocher ce stage, ce job. Bon. Et en fait, il y avait un truc qui hurlait au fond de moi, il y a une autre façon qui sera la tienne d'agir, qui ne sera pas du tout celle-là, qu'il n'y aura pas de couloir avec de la moquette, de collègues de travail, de fontaine à eau et tout ça. Parce que moi, la vie intérieure de l'entreprise, ça me fascinait. Mais ça me fascinait au sens où je voulais l'écrire, pas où je voulais être dedans. Et je pense qu'il y a toute une espèce, une part d'être qui agit sans action, je ne sais pas comment le dire, et se sentent appelés par ça. Et c'est vraiment de l'ordre de, presque de la vocation, quoi. Pourquoi je suis arrivée là?
Moi, je voulais parler de l'histoire de la fleur.
La fleur.
La fleur est très, très importante, je trouve. Enfin, c'est un motif important dans le livre.
Oui.
La fleur dans le désert,
oui.
Qui est aussi, qui fait aussi acte de résistance, parce qu'elle existe juste.
Alors, il n'y a rien dans ce désert, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de saison. Alors, évidemment, l'idée qu'il n'y a pas de saison, c'est qu'on n'attend pas de renouveau. C'est le désert des Tartares, quoi, de Buzzati. On devient fou parce qu'on n'attend rien, en fait. Et l'idée qu'il n'y ait pas de saison, moi, par exemple, je suis très, très sensible aux saisons. C'est une vraie joie de me dire qu'on vit dans des zones tempérées où il y a des saisons. Je ne pourrais pas du tout vivre que l'été, que l'hiver. Ça n'a pas de sens pour moi parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc d'optimisme dans le renouvellement, de quelque chose d'autre va arriver qui, psychologiquement, est très, très important pour moi, en tout cas. Et là, donc, il n'y a rien. Et quelquefois, il y a cette espèce d'idée dans Achelawik, le nom de ma petite ville, là, qu'une fois dans sa vie en général, on croise dans le désert une fleur. Ça arrive une fois dans une vie. Et pourquoi elle est là, cette fleur? Parce qu'il y a des tornades, et quelquefois, dans le flot de la tornade, il y a une graine qui est transportée et qui, sans eau, sans rien, sans compagnie, sans aucun secours, va arriver à pousser comme un bon petit soldat. Bon. Et ça, c'est le poète au milieu de cet entourage inculte. Mais quand on dit inculte, c'est pas une façon arrogante de dire sans culture. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la matière à ce que ça pousse. Et moi, ce que j'aime dans ces trucs arides, dans ces trucs de désert, c'est de se dire que ça germine longtemps, en fait. Quand il n'y a pas grand-chose, je trouve que d'un point de vue créatif, quand il n'y a pas grand-chose, quoi, quand on est comme ça, sans saison, en train de germiner sous le sol comme un bulbe et tout, ben moi, comme les enfants qui s'ennuient beaucoup, en fait, ils pensent à plein de choses, et puis à un moment, on sent que ça va exploser, que ça va donner une fleur ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas exactement quel était le sens de la métaphore de la fleur, mais pour moi, ça me parle, cette idée de quelque chose de beau et de vivant qui pousse dans un endroit où on n'attend plus rien, en fait. Dans cette ville, tout le monde bosse dans une usine de pop-corn. Et du coup, tout le monde pense que sa vie est tracée et qu'il s'agira tout le temps d'aller bosser dans cette usine de pop-corn. Et moi, cette espèce de sentiment d'enfermement, se dire que rien d'autre peut arriver, c'était une angoisse quand j'étais petite. Je me rappelle, par exemple, on me disait, quand tu seras grande et que tu seras mariée, machin. Donc je me disais, oula, il faut se marier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est sûr? Donc je me demande, mais attends, comment ça se marier? C'est-à-dire, se marier, ça fait partie. Je me disais, par exemple, on perd ses dents de lait, ça se trouve, c'est un truc aussi obligatoire que perdre ses dents de lait. À un moment donné, on se marie. Et quand j'ai commencé à comprendre que tout n'était pas si obligatoire que ça, je me suis dit, il y a un truc à creuser là qui te correspondra mieux. Et ben voilà, là, ce tome qui fait de la poésie dans le désert, ça me parle dans l'idée qu'il n'y a pas de lieu propice. En fait, il n'y a pas de bon terreau à la création. Et du coup, j'adore penser qu'il y a des terreaux très, très arides où ça pousse quand même.
Voilà. Est-ce que ce ne serait pas une métaphore de toi dans le paysage culturel actuel, cette fleur?
Qu'est-ce qu'il a, le paysage culturel?
Je sais pas, c'est une proposition. Aride, plat, sans intérêt.
Je veux bien faire la fleur, moi.
Voilà.
J'ai un amour fou des fleurs. Très bien. J'achète. Sans argent.
Alors, Rose, elle n'a pas une vie ni plate ni sans intérêt, puisqu'il lui arrive des tas de choses dans sa vie. Et elle aussi, elle a une sorte de philosophie, Rose. En tout cas, elle en a une qui lui vient de son père, qui est une philosophie, un peu, comment dire, paradoxale, je dirais.
C'est la revanche de l'écrivain. En fait, j'ai dit au départ que c'était un merveilleux espace de liberté. Je me souviens que dans le premier livre que j'ai écrit, qui était un livre pour adolescents, qui s'appelait « Je ne t'aime pas, Paulus », à un moment, il y avait un personnage qui s'en prenait plein la tête. Et je lui ai donné le nom d'une petite fille qui m'embêtait beaucoup à l'école. Et c'était extraordinaire, parce que c'était bon. Et c'est une des vertus de la littérature. C'est de faire ça, de se venger. Donc, en écrivant ce livre, je me suis aussi vengée des années de philo où j'étais vraiment, vraiment pas bonne du tout. Je comprenais rien, mais absolument rien. Et c'était très frustrant pour moi parce qu'en plus, j'avais un passé et même un présent de très bon élève. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi cette matière me résistait ou pourquoi je lui résistais. C'était vraiment vexant. Et en même temps, ça m'a toujours beaucoup intéressée et j'ai toujours beaucoup lu de philosophie, ce qui peut paraître un peu masochiste. Et donc là, ma petite vengeance, c'est d'avoir utilisé la philosophie comme élément comique du livre. Parce que ce livre n'est pas que triste, il y a aussi des choses drôles dedans. Et celui qui joue le rôle du comique est tenu par la philosophie. Alors, je vais vous expliquer comment. Il y a le papa de Rose qui s'appelle René de Maisonneuve, qui est donc un officier de l'armée française, mais qui passe la plupart du temps posté en Afrique. Et il a une obsession, il est obsédé par Spinoza. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Spinoza, il vaudra mieux que vous lisiez un que sais-je, ce sera beaucoup plus clair. Mais en gros, à un moment, entre autres choses, Spinoza décrit la destinée de l'homme comme la trajectoire d'une pierre qui serait lancée au hasard par une main insouciante. Et donc René de Maisonneuve, obsédé par cette image, parce qu'il est obsédé par la pensée de Spinoza, se dit sans arrêt, dès qu'il ressent un mouvement chez lui, il se dit « Ah, mais je suis peut-être en train d'être la pierre lancée par cette main insouciante, il faut donc que je résiste à ce mouvement qui m'entraîne et que j'aille dans l'autre direction. » Par exemple, à un moment crucial du livre, sa fille, qui vit seule avec lui à ce moment-là, et qui est très innocente, lui dit, on n'a pas vraiment la scène, mais on comprend que cette scène a eu lieu, je vais partir à Paris, toute seule, oui, toute seule, sans rien. Alors là, René de Maisonneuve, qui est quand même un type normal, pense, ah ben non, tu vas du tout partir toute seule à Paris maintenant, alors que tu as 20 ans. Mais là, au moment de dire ça, il se dit, ouïaïaïaïaï, Spinoza, viens à mon aide, je suis peut-être en train de n'être que le jouet du destin et de n'être que cette pierre lancée au hasard, et donc je vais dire oui à ma fille parce que justement j'allais lui dire non. Donc sans arrêt, en fait, au lieu de prendre les décisions qu'il faudrait, que le bon sens lui impose, il prend la décision d'à côté. Donc il envoie sa fille au casse-pipe, en gros en lui disant bien sûr tu peux partir toute seule, et c'est le début des catastrophes qui vont... Enfin des catastrophes et des bonheurs aussi qui vont arriver à Rose. Donc c'est une réflexion en vérité sur la liberté, sur le libre arbitre et la liberté de choix, et qu'est-ce qu'on fait quand on fait un choix? Est-ce qu'on se précipite vers le néant ou est-ce qu'au contraire on laisse la porte ouverte à des occasions qui se seraient peut-être pas présentées autrement? Ce dont Rose est la preuve, puisqu'il lui arrive quand même pas mal de choses positives aussi. Et donc voilà, on voit sans arrêt René faire les mauvais choix et être pas fiable et ridicule et se prendre les pieds dans le tapis philosophique. Et puis il a une très très grande théorie, c'est un très grand antisémite. Et à un moment, il y a tout un passage sur l'affaire Dreyfus où sa femme et lui ne sont pas du tout d'accord sur la question. Et lui, il est un très très grand antisémite. Il a quand même cette façon très paradoxale d'expliquer à sa fille pourquoi les juifs sont vraiment des porcs. Ils lui disent quand même, il dit Spinoza était juif. Ils l'ont excommunié. Comment ils ont pu faire ça? Ah, mon Spinoza. Donc par passion pour un philosophe juif, il se met à haïr les juifs, par exemple. C'est le genre de truc que fait René de Maisonneuve. Donc voilà ce que je fais avec la philo. Ce qui est vrai, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on attend d'un roman philosophique. Mais on peut attendre ça d'un roman comique.
Mais enfin, quand même, il est quand même question de bonheur dans ce livre. Enfin, voilà, de quête du bonheur peut-être. En tout cas,
oui.
Dans ces livres, puisqu'il est beaucoup question de bonheur aussi dans le livre d'Émilie, puisque la petite supérette s'appelle Le Bonheur, d'ailleurs a été rebaptisé Le Bonheur, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et est-ce que c'est quelque chose justement aussi qui était dont vous aviez, enfin quelque chose dont vous avez envie de parler aussi, en particulier ou pas, ou c'était
Alors là, c'était, en l'occurrence, quand il rebaptise son petit supermarché Le Bonheur, c'est un peu une plaisanterie sur le wishful thinking, quoi. C'est comme d'être très déprimé, de se mettre une étiquette avec marqué je rayonne de joie sur le front en se disant il va se passer quelque chose. Bon, à ce moment-là, quand il a ouvert sa petite supérette, il s'est dit je vais faire comme un commerçant normal. Ça veut dire si les gens me demandent un produit, bah, je vais le mettre en rayon, puis s'ils m'en demandent un autre, je vais le mettre, et puis comme ça, leur désir va rencontrer les produits des rayons, et tout va bien se passer. Et en fait, ils réalisent que ça ne marche pas comme ça, la vie, qu'à chaque fois qu'on veut un produit, en fait, c'est jamais le produit qu'on veut. On veut vouloir. Et donc, ça n'en finit jamais. Et les gens veulent autre chose. Et donc, il se dit, mais je vais les sauver. Je vais leur offrir le bonheur. Il se souvient de là, pour le coup, de la leçon de son prof à l'université, qui lui a dit qu'un certain niveau de manque dans la vie était une bénédiction. Donc, il prend ça au pied de la lettre. Il se dit, bah, si je veux qu'ils soient bénis, mes clients que j'adore, il faut que j'assure moi-même ce certain niveau de manque. Et alors, il prend ça au pied de la lettre. Et alors, il n'y a plus rien dans son supermarché. Et c'est là qu'il décide de le rebaptiser le bonheur. Donc l'idée, c'est pas de faire de la pub pour le manque, mais c'est quand même, alors pourquoi ça me touche cette histoire? Paradoxalement, j'adore les objets, donc pour moi c'est pas du tout une question d'être matérialiste ou de ne pas l'être. J'adore ce que les objets ont à voir avec nous. Je suis émue par des objets qui ont été touchés il y a longtemps, qui ont été regardés il y a longtemps, ou j'adore qu'il y ait un décor autour de moi. J'aimerais vraiment pas vivre dans un lieu où le décor ne me parle en rien, ni historiquement, ni familialement, ni de moi, ni de rien. Donc c'est pas une question de ne pas être matérialiste. C'est toujours une idée étrange de confondre le fait d'avoir besoin de consommer. La consommation n'a rien à voir avec l'objet qu'on consomme. Donc moi, c'est cette consommation-là qui me dérange. Par contre, là, l'idée qu'ils mettent rien dans son supermarché, c'est simplement parce que c'était pas un commerçant. Enfin, c'est pas un roman sur le commerce, de toute façon. Donc cette question du bonheur, c'était plutôt quel est l'espace inaliénable en soi où il se passe plein de choses, même quand il se passe rien. Et donc lui, l'idée qu'il va recevoir ses clients et qu'il sait si bien écouter, ou qu'il est, c'est ça son côté candide aussi, c'est qu'il va trouver, parce que moi je suis comme ça en fait, comme je m'ennuie vite, j'ai trouvé plein de stratégies dans la vie pour jamais m'ennuyer, notamment regarder les gens partout, écouter les phrases. Avant, j'habitais au rez-de-chaussée, je laissais la porte ouverte et j'entendais des phrases, des bouts de phrases, des bouts de conversation. Et quand c'est totalement arraché au contexte, alors des fois c'est des trucs absolument fous, de poésie, de machin, puis quelquefois au contraire on se dit, mais il y a des gens qui disent vraiment ça, des clichés, des phrases toutes faites, des « mais non chérie, tu sais bien que l'argent ne fait pas le bonheur ». Tu dis, mais les gens disent vraiment ça, alors j'écrivais les phrases et tout. Bon. Et moi, ce que j'aime bien chez ce tome-là, chez mon petit gérant de supérette, c'est qu'il arrive à rendre sa vie trépidante alors qu'il y a absence totale en vrai de trépidation. Et moi, ça, c'est toujours un truc par exemple, j'en parle beaucoup avec mes enfants. Donc c'est la tyrannie à la maison. On n'a pas d'écran, on n'a pas de télé, ils n'ont pas de jeux vidéo, ils n'ont pas de machin, bon, bref. Et ils vont bien. Et ça, c'est la question du coup de est-ce qu'on peut apprendre à observer? Avant, je me disais que non, qu'il y avait des gens naturellement contemplatifs et pas. Et après, je me dis, en fait, c'est comme toutes les choses ennuyeuses et longues à domestiquer et à aimer. Et ben, on apprend à regarder comme on apprend à aimer une certaine forme de musique pas très avenante au premier abord et hyper riche si on prend du temps. Et c'est pareil pour toutes les formes d'art. Moi, je crois pas tellement. Enfin, je trouve que c'est très rare, en fait, les arts où on a des coups de foudre d'un coup. J'ai vraiment l'impression que c'est une longue rencontre et que quelquefois, il faut un peu s'obstiner pour beaucoup, beaucoup de bonheur à venir. Donc, cette idée du bonheur, c'était pas pour dire quand il y a rien, youpi, c'est le bonheur. C'est de se dire, en fait, c'est ce travail de contemplation, quoi. C'est l'art qu'il a de regarder, d'écrire, de faire ses poésies. Il y a quelque chose de très laborieux là-dedans. Mais je trouve que c'est des joies très, très vive, et c'est pas faire de nécessité vertu, quoi. C'est pas juste dire il y a rien, donc on va trouver un truc à se mettre sous la dent. C'est que je me rends bien compte que toutes ces choses qui font appel à l'imaginaire, parce qu'elles sont très personnelles, renvoient à des choses qui sont plus passionnantes pour celui qui les fabrique, sous forme d'image, que ce qui arrive tout fait et qui, du coup, correspond très très rarement à celui qui les dévore. Voilà.
moi, je voulais dire quelque chose à propos de ces deux personnages, Tom et Rose, qui sont tous les deux des apprentis écrivains. Tom, parce que, alors, il écrit des haïkus, mais il écrit aussi l'histoire de ce supermarché qui va s'appeler Vie et mort d'un supermarché, qui va devenir un livre. Et Rose, elle écrit aussi dans son petit carnet, elle écrit des choses, tout ça, et elle raconte ce qui lui arrive et tout ce qu'elle peut. Et moi, je me demandais si finalement, autant pour l'une que pour l'autre, finalement, si le motif caché du tapis, ça serait pas dans vos deux livres, ça serait pas l'écriture tout simplement, et vous avez juste envie de d'écrire quelque chose sur l'écriture. Finalement, la dernière chose qui nous reste de ces deux livres, c'est ça. C'est alors j'ai quelque chose à dire aussi encore avant que
je referme la bouche.
Que vous y répondiez. J'ai trouvé un texte, enfin. Dans le livre d'Agnès qu'elle a écrit l'année dernière à propos de son rapport à la lecture, qui avait l'air très difficile, quelque chose qui me semblait intéressant. Et voilà, je vais le lire et puis vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas sur le sujet. Alors, lors d'un travail mené autour des théories de la traduction, j'ai été visitée, comment le formuler autrement, par un souvenir très ancien. Je suis, je ne sais comment, revenue au moment où j'apprenais à parler. Je devais avoir 18 mois. Et j'étais impatiente de m'approprier ces objets dont je savais déjà qu'ils s'appelaient des mots et qu'ils servaient à exprimer, c'est-à-dire à faire sortir, à faire jaillir ce qui s'imprimait à l'intérieur. Le reflet du soleil sur la vitre, les particules qui dansent dans le rayon de lumière, la flaque ondoyante dessinée au plafond par la réflexion de ce reflet. Les bébés passent beaucoup de temps à étudier la lumière. J'étais enthousiaste et optimiste. Certains bébés le sont particulièrement, et je pensais qu'avec l'accession au langage, je serais en mesure de tout dire, de tout communiquer. Il y aurait un mot pour chaque sensation, pour chaque chose vue, aussi efficace que le petit bout de doigt potelé qui pointe vers le ciel avec un cri inarticulé et qui signifie à la fois avion, vitesse, flèche, bruit, peur, beauté, éclair, fusée, étoile, bleu. La déception, ah vraiment, quel mot délicieux, la déception fut intense. Quand vers 2 ans, je dus me rendre à l'évidence. Les mots étaient imprécis, peu nombreux, encombrants, raides. Ce que j'appelle l'âme de l'écrivain, c'est le fatras complexe, miroitant et insaisissable, qui précède puis accompagne le périlleux moment de l'accession au langage. C'est la boue, le bloc, un monde beaucoup plus large que celui que peuvent contenir les mots. Donc je voulais juste dire que, est-ce que c'est ça en fait l'écriture, est-ce que ça vient dès l'enfance?
Ah.
Voilà, en fait est-ce que, voilà, voilà, c'est ma dernière question parce qu'après je crois que...
D'accord.
Est-ce que ça vient dès l'enfance et est-ce qu'on a envie d'écrire dès l'enfance? Enfin, d'où ça vient l'écriture? Mais peut-être que ce n'est pas ça, hein. C'est une intuition, peut-être que le motif n'est pas l'écriture, mais voilà, je voulais savoir ce que vous vouliez en dire.
Bon, j'y vais. on ne peut pas répondre de manière générale parce que les raisons pour lesquelles les gens écrivent sont très mystérieuses. Moi, j'ai toujours eu l'impression que mon rapport à l'écriture naissait d'un trouble du langage. Donc, à la fois un trouble avec le langage et un trouble du langage au sens où j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Donc, il y a quelque chose qui s'ancre là-dedans. Et après, je reviens sur la question formulée précédemment, quand vous disiez, vous remarquiez que Tom et Rose sont des apprentis écrivains ou des aspirants écrivains. George Steiner explique ça très bien, que l'œuvre parle forcément, enfin n'importe quelle œuvre qui est sérieusement faite parle de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'un livre parle de ce que c'est qu'écrire, un tableau parle de ce que c'est que peindre. Donc même s'il n'y a pas d'aspirant écrivain dans un livre, si tout se passe bien, le livre dit quelque chose de l'écriture. Et après, le rapport à l'enfance, il y a 2 sources qui comptent toujours. C'est Flannery O'Connor qui disait que ce qu'on a accumulé comme sensation jusqu'à l'âge de 12 ans suffit à écrire des livres pour le restant de ses jours. Et Virginia Woolf qui, elle, situait son moment d'apprentissage du monde d'une période qui précédait l'apparition du langage, parce qu'elle disait qu'en fait le langage bornait les choses et les rendait beaucoup plus petites qu'elles n'étaient, alors qu'il fallait justement, quand on écrivait, aller retrouver ce moment où il n'y avait pas encore les catégories, parce que les catégories abîment la perception. Et donc, c'est ce qui fait aussi que quand on écrit, on est toujours en train de traduire. En fait, on ne se sert pas directement des mots, mais parce que sinon, ce serait trop facile. On part d'une perception, d'une impression que les mots peinent énormément à décrire. Et l'effort, il est de traduire une matière dans une autre qui n'est pas si accueillante que ça. Donc, c'est pour ça aussi que ça s'origine, à mon avis, dans l'enfance. C'est parce que c'est là qu'est le réservoir de sensations qui sont encore vierges de tout langage.
Oui, je suis très très d'accord avec ça. C'est vrai. Moi, quand j'étais petite, j'avais l'impression que tout était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, je me souviens très petite que je me disais, pour faire un mur de pierre, peut-être qu'il ne faut pas des pierres, en fait. Et je me disais aussi pour le jus d'orange, je me rappelle, pour faire du jus d'orange. Rien ne me prouve, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille squeezer, écraser des oranges. Alors, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais si méfiante comme ça sur toutes les choses qui paraissaient évidentes. Et en fait, maintenant, c'est très logique pour moi. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que tout est une catégorie. Même dire jus d'orange, c'est une catégorie. Parce que jus d'orange, c'est un jus d'orange, mais ça suppose qu'il y a des gens qui ont travaillé, qu'il y a des arbres qui ont poussé, qu'il y a des machins. Et que finalement, un mot, c'est toujours et un raccourci, et quelque chose de vague, qui a des bordures d'ailleurs assez floues. Mais il y a bien un moment où, malheureusement, on appelle table une table. Et il semblerait en plus que, au bout d'un certain temps, quand nos idées se sont clairement sédimentées, on voit toujours, quand on pense à poisson, au poisson, on pense à un poisson très simple. On pense jamais à un poisson hyper... On pense pas à un poisson clown, par exemple. Quand on pense à oiseau, on va penser à un oiseau très simple. On va pas penser à un manchot ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est pour que la communication se fasse facilement, mais on a notre cerveau qui va vers quelque chose de médian. Alors, voilà, moi, je sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, écrire, c'est exactement se dire qu'en fait, sous chaque mot, le spectre est beaucoup plus large. Non seulement il est large, mais quelquefois il déborde sur un mot d'à côté. Et que c'est tout un travail de savoir où sont ses frontières et tout ça. Et quand j'étais petite, on me l'a dit très tôt, que j'avais une... c'est marrant qu'ils disent trouble du langage. Moi, c'est trouble de la voix. On me l'a dit encore récemment, qu'il me manque des notes à un endroit, que je passe du grave aux aigus et qu'il manque à un endroit... J'ai un trou dans ma tessiture. Et alors ça, je me dis, mais c'est... C'est logique. Enfin, je pense qu'il me manque un endroit d'expression et que c'est comme une hauteur, quoi, qui fait que la voix passe d'un endroit à l'autre et que ça, j'essaye de retrouver ça en écrivant, de combler le trou. Alors, ça a l'air un peu tiré par les cheveux comme ça, mais je me dis qu'une voix, c'est quelque chose de tellement intime qui nous raconte tellement la façon de parler, de moduler les graves et les aigus, les machins, que ça doit forcément dire quelque chose qui manque plein de notes au milieu. Et j'ai un ami comédien qui m'a dit récemment, tu sais, ça peut s'apprendre, tu peux combler le trou, tu peux apprendre à... et je me dis que je fais ça en fait, que écrire, je comble le trou, j'ai pas vraiment besoin que ça s'entende quand je parle.
Voilà, alors évidemment je vous amenais à l'enfance parce que toutes les deux vous êtes, il me semble, en tout cas Agnès c'est sûr, elle écrit des livres,
ah oui,
des
livres, c'est sûr,
etc. Et Émilie aussi,
oui.
Pour les ados d'ailleurs.
Ah non, pas du tout. Enfin, des ados de 5 ans.
Ah non, donc... ah oui,
c'est des petits ados maintenant.
Je croyais, ouais, que c'était plus grand. Excusez-moi. Et donc, oui, voilà. Donc, en fait, c'était juste une petite pirouette pour parler aussi de l'enfance. Mais en effet, ça m'a traversé pendant toute la lecture de ces deux livres. Voilà. Donc, je parlerai encore longtemps avec Émilie et Agnès, mais voilà, il est un peu tard. Moi, je suis ravie de vous avoir rencontrées toutes les deux, en tout cas. Et puis, je vous remercie encore. Et puis, à très bientôt, j'espère.
Merci. Merci à vous.